Bonjour à tous et bienvenue. Vous écoutez Blooming You, le podcast qui vous propose toutes les connaissances utiles à une vie bonne et heureuse. Nous avons une ambition, celle de vous inspirer, de vous aider à mieux vous connaître et surtout de vous faire du bien. Notre parti pris est de partager avec vous des savoirs ayant un impact positif sur l'homme et le vivant. Je suis Amal Dadol, votre hôte, et j'espère que ce contenu fera sens pour vous. Aujourd'hui, nous accueillons Boris Cyrulnik, neuropsychiatre et auteur d'ouvrages à succès, dont celui qui fait l'objet de notre rencontre aujourd'hui, Des âmes et des saisons, aux éditions Odile Jacob. Dans son livre, Boris Cyrulnik démontre les liens entre le corps, l'âme et l'esprit en croisant des connaissances à la fois sociologiques, paléoanthropologiques, scientifiques et psychologiques. Dans ce podcast, Boris Cyrulnik explique comment notre environnement agit sur nous et nous conditionne, et ce, dès les premiers moments de la vie. Eh bien, écoutez, bonjour Boris Cyrulnik.
Bonjour Amal Dadol.
Alors, a-t-on besoin de rappeler que vous êtes neuropsychiatre ?
Oui.
Nous vous recevons aujourd'hui à l'occasion de la sortie de votre dernier livre, Des âmes et des saisons, paru récemment aux éditions Odile Jacob. Alors, dans votre livre, vous démontrez les liens entre le corps, l'âme et l'esprit en croisant des connaissances en apparence opposées, hein, mais vous démontrez très bien les liens dans vos livres. Alors, des connaissances sociologiques, paléoanthropologiques, scientifiques et psychologiques. Jusqu'ici, est-ce qu'on est d'accord ?
Oui, oui, on est encore d'accord.
Alors, vous dites dans votre livre que l'aventure humaine d'un enfant commence avant même sa conception. Vous pourriez nous expliquer pourquoi ?
Oui, parce que l'Occident a été la seule culture à faire naître le psychisme d'un bébé le jour de sa naissance. Et il y avait beaucoup de publications sur l'enfant de 0 à 3 ans. Or, l'enfant de 0 ans, c'est l'enfant avant sa conception, juste au moment de sa conception. Alors à ce moment-là, les psychologues ne sont pas présents. Mais avant la conception, on peut dire que lorsqu'une jeune femme, très jeune femme de 13 ans, qui a quitté sa famille, qui prend des substances et qui rencontre un garçon de 17 ans, qui n'a pas de travail, qui est délinquant, qui prend des substances, on peut prédire que ces deux jeunes vont organiser la première niche sensorielle d'un bébé, et cette niche sensorielle sera en difficulté, et c'est là que le bébé devra se développer. Et on voit que déjà, si on peut aider ces jeunes dès ce moment-là, on fera du bien à ces jeunes et on fera du bien au futur bébé. Et maintenant, les neurosciences filment, dosent, démontrent que le psychisme commence à se mettre en place dans l'utérus, dès les premières divisions cellulaires. On voit que le monde mental de la mère organise la niche sensorielle du bébé. Si la mère est stressée, elle va sécréter les substances du stress, le cortisol, les catécholamines. Et qu'est-ce qui peut stresser une jeune mère ? Eh bien, c'est son histoire, son mari, sa culture, la précarité sociale, la guerre, etc., les malheurs de la vie. Et si la mère est stressée, elle va sécréter beaucoup de substances du stress. Et si ça dure trop longtemps, ça va passer la barrière du placenta, ça va rentrer dans le liquide amniotique de la femme enceinte. Or, le bébé déglutit ce liquide amniotique bourré de substances du stress toxiques pour son cerveau. Ce qui veut dire que le bébé va arriver au monde avec des altérations cérébrales provoquées non pas par la mère, mais provoquées par le malheur de la mère. Ça peut être son histoire, son mari, la guerre, etc. Donc, si j'arrête mon raisonnement là, vous allez être désespéré. Alors, je vais vite rajouter une phrase. Le bouillonnement des neurones d'un bébé est tellement important, 300 000 synapses à la minute pendant les premières années, que si on s'occupe de la mère et si on la sécurise, si on l'entoure avec le père, le deuxième parent, avec la famille, la culture, si on aide la mère, la jeune mère sécurisée deviendra sécurisante pour le bébé qu'elle porte et le bébé va se débrouiller pour reprendre un bon développement. Mais si on ne fait rien, à ce moment-là, le cerveau du bébé va rester altéré, mais qui nous demande de rien faire.
C'est ce que vous expliquez à travers un terme, enfin, vous mettez ça dans la psychoécologie, dans lequel vous décrivez trois types d'écologie. Donc là, on est rentré dans le, dans l'écologie proche, c'est-à-dire utérin, c'est ça, hein. Y a, ensuite, vous allez jusqu'au bras de la maman, en fait.
C'est la deuxième niche écologique, c'est le corps de la mère, le sein, les yeux, le corps de la mère, contre la mère si le bébé est insécurisé. Et le père est beaucoup plus actif, beaucoup plus présent que ce qu'on croyait auparavant, dès les premiers mois, dès qu'il sécurise la femme enceinte, il participe au bon développement. Et le bébé, dans la deuxième niche, la niche affective, alors comme vous l'avez dit, la première niche écologique, c'est la niche sensorielle de l'utérus, ça commence dès les premières divisions cellulaires, mais tout de suite après la naissance, c'est la niche affective, les bras, le corps de la mère et la présence du père. Et on parlera sûrement tout à l'heure de la troisième niche écologique, qui est celle de la verbalité, des récits qui caractérisent la condition humaine. Mais dans la deuxième niche écologique, on se rend compte que ce n'est pas encore la mère dans l'esprit du bébé, c'est des éléments, des morceaux de mère, si vous permettez. C'est le mamelon, les yeux. Le bébé accroche tout de suite, dans l'heure qui suit la naissance, il accroche les yeux de la mère. Et si la mère est émue, contente d'avoir mis au monde un bébé sécurisé, elle va soutenir le regard du bébé et elle va l'accrocher. Et si elle lui parle, les neurosciences montrent que, comme l'avait dit Françoise Dolto, parler à un bébé, c'est tout à fait important. Mais si on lui raconte les problèmes de George Biden aux États-Unis, le bébé va s'en foutre. Mais si on lui parle, il va être très content. Ça va être un objet sensoriel très stimulant pour lui, la parole maternelle, la brillance des yeux, le corps de la mère, la présence du père, une deuxième figure d'attachement près de la mère et différente de la mère. Et à ce moment-là, le bébé aura la deuxième niche sensorielle, la deuxième niche écologique, celle de l'affectivité.
En quoi la présence du père est différente de celle de la mère ? Dans la niche sensorielle. C'est quelque chose que vous expliquez hein, dans votre livre. Il y a une nuance.
Oui.
Il faut qu'il y ait une différence.
Il faut que le père soit associé à la mère et différent de la mère. D'abord parce que si c'était comme la mère, pour le bébé, ça serait une sorte de clonage. Une mère, une mère, une mère, une mère, c'est la même, il n'y a pas de différence, donc il n'y a pas de stimulation. Si une information est toujours la même, elle finit par ne plus être une information, ça ne stimule plus. Pour que ça stimule le bébé, il faut qu'il y ait, bien sûr, la mère, qui est la figure d'attachement primordiale, et très tôt, près de la mère, et une autre figure d'attachement, qu'on va appeler père, même si le mot père désigne un statut étonnamment différent selon les cultures. Alors, jusqu'à maintenant, la culture, on était centré sur la culture occidentale, et on avait tendance à penser que c'était la seule vraie culture. Les Asiatiques, les Africains, ils n'avaient pas de vraie culture. Il y a pas longtemps, on pensait ça encore. Or, on se rend compte que dans ces autres cultures, le père désigne un statut étonnamment différent. Mais il faut que ce soit quelqu'un d'associé à la mère pour que la mère soit sécurisée et soutenue. Et pas seule, parce qu'on sait qu'actuellement, les jeunes mères seules dépriment plus qu'avant. On voit que la courbe des dépressions périnatales monte très rapidement, ce qui est un scandale parce que les conditions matérielles des femmes n'ont jamais été aussi bonnes et pourtant elles dépriment énormément. Et elles dépriment énormément parce qu'elles sont trop seules et que le tranquillisant naturel, c'est un autre attaché, sécurisant, et la mère n'étant plus seule, le bébé aura autour de lui tout ce qu'il faut pour se développer, il va se débrouiller. Alors, mais il faut que le père soit différent. Alors, selon les cultures, le mot père désigne des statuts étonnamment différents. Beaucoup de cultures africaines, le père, c'est celui que nous, on appelle l'oncle, l'oncle maternel. Et dans beaucoup de cultures africaines, même au Maghreb, ça a disparu, mais l'oncle maternel est très important. Beaucoup de pères immigrés téléphonaient à leurs enfants et leur disaient, travaille bien à l'école, hein, parce que je vais en parler à ton oncle. L'oncle, c'était un deuxième père. Et il y a des cultures africaines où l'oncle, c'est le premier père. C'est-à-dire que, et il y a beaucoup de cultures qui, par exemple, chez les Zoulous, où le père n'est radicalement pas l'amant. L'amant et le père, c'est deux fonctions différentes. L'amant, c'est celui qui fait le coup, si vous permettez cette délicate métaphore. Le père, c'est celui qui s'attache et que la culture rend responsable de l'éducation des enfants. Et c'est lui le père, c'est lui qui doit s'en occuper et il finit par s'attacher à l'enfant. Et il y a des cultures où le père, Maurice Godelier, qui est un grand nom de l'anthropologie, dit qu'il y a des cultures, c'est pas les Barouillas, c'est une culture sud-américaine, où le père, c'est tous les hommes du côté de la mère. Et dans d'autres cultures, la mère, c'est toutes les femmes du côté de la mère. Donc les structures de parenté sont très différentes selon les cultures, mais toutes ces cultures sont des cultures traditionnelles, sauf qu'elles sont toutes différentes. Lévi-Strauss, dans la dernière année de sa vie, avait fait un recensement du nombre de familles qui existent actuellement sur Terre, des structures familiales. Il en avait trouvé 5 000. Chacune de ces familles est une famille traditionnelle. Alors quand on nous parle de la famille traditionnelle en France, oui, elle existe, mais ce n'est qu'une tradition parmi 4 999 autres. Alors c'est important, la tradition est importante, mais ça caractérise une culture. Or, ce qui caractérise les cultures, justement, c'est qu'elles passent leur temps à changer. Ça, c'est la deuxième niche écologique, où l'idéal pour un bébé, c'est qu'il y ait 4 à 6 figures d'attachement. Parce que s'il n'y a pas une seule figure d'attachement, là, c'est très grave, le cerveau est altéré. Mais s'il y a 20 figures d'attachement, le bébé ne peut pas s'attacher à 20 personnes. Donc, il faut qu'il y ait la mère, bien sûr, et autour de la mère, le père, la grand-mère, la tante, la grande sœur, le chien, et le bébé finit par très rapidement reconnaître ces figures d'attachement qui constituent sa deuxième niche écologique et il se débrouille pour se développer.
Et dans le cas d'une culture homoparentale,
Et
quelle est
ben,
la vision?
c'est la deuxième femme ou le deuxième homme qui assume la fonction paternelle. Par exemple, beaucoup de femmes divorcent. Et dans 73% des cas, le juge attribue à la femme la garde de l'enfant. Si cette femme est seule, sans mari, puisqu'elle vient de divorcer, élève son enfant avec sa grand-mère, c'est deux femmes qui élèvent l'enfant. Personne proteste. Alors je me demande pourquoi on a protesté quand deux femmes homosexuelles proposaient d'élever un enfant ensemble. C'est le même principe. L'enfant s'attache aux deux. Mais il y a une femme qui prendra la fonction maternelle et une autre femme qui prendra la fonction paternelle et le bébé se débrouillera.
D'accord, très bien. Alors, dans les écologies que vous décrivez, il y a l'écologie de la parole que vous avez mentionnée tout à l'heure. Vous dites que la parole est une caresse, qu'elle a plus une fonction affective qu'informative. Comment la parole agit-elle sur notre corps?
Alors, l'ontogenèse, c'est-à-dire le développement progressif de la parole, commence dans l'utérus. On a rendu ça observable à Toulon, mais beaucoup de jeunes ont repris, c'est techniquement beaucoup mieux que nous, mais je crois qu'on a été les premiers à le démontrer. Quand la mère enceinte, quand la femme enceinte parle, les hautes fréquences de sa voix sont filtrées par son corps et par le liquide amniotique. En revanche, les basses fréquences de sa voix qui vibrent, qui sont des vibrations, hein, les hautes fréquences, c'est des vibrations suraiguës, alors que les basses fréquences, hein, les Tibétains font om, om. J'endormais mes petits-enfants comme ça, je les mettais contre moi, et je faisais om, om. Les basses fréquences de ma poitrine, paf, tranquille, ils s'endormaient au troisième om, om.
Ah ouais, ça c'est une astuce, ça.
Ça marchait très bien, hein. Ça marchait très bien parce qu'ils sentaient la vibration, hop, ils étaient capturés, fascinés, donc ils pensaient, ils étaient attentifs, om, om, toc, ils s'endormaient. Ça, donc, et quand la mère parle, quand elle est enceinte, eh bien, les hautes fréquences sont filtrées et les basses fréquences passent très bien. Et donc, dans le liquide amniotique. Or, le bébé entend ces basses fréquences et les premiers corpuscules de son corps qui sont en train de se développer, c'est la bouche et les mains. Donc, quand la mère parle, les basses fréquences de sa voix viennent caresser la bouche et les mains du bébé qu'elle porte. Et quand le bébé arrive, donc il se familiarise dans sa petite mémoire, il met ça dans sa mémoire. Et quand il arrive au monde, dans l'heure qui suit sa naissance, il reconnaît la voix de sa mère parmi 5, 6, 8 autres voix. Il ne répond pas aux autres voix, alors qu'il répond à la voix de sa mère, où qu'elle soit dans l'espace, il tourne la tête et les yeux pour la chercher. Et quand la mère met le bébé au sein, si elle le regarde et si elle lui parle, le bébé est absolument intéressé, il est fasciné. Mais ce qui l'intéresse, c'est probablement la caresse verbale, les basses fréquences de la voix maternelle. Si vous lui lisez le règlement du métro parisien, un bébé de moins de 1 mois, il va vous regarder intensément. Mais ce qui va l'intéresser, c'est la musique de votre voix, c'est les basses fréquences, c'est la caresse de votre voix. Ce n'est pas le règlement du métro parisien. Donc ça veut dire que le bébé, parler à un bébé, comme l'avait dit Françoise Dolto, c'est tout à fait important. Et la neuroscience, la neuroimagerie aujourd'hui, filme et photographie comment, quand la mère parle au bébé, elle stimule une partie de son lobe temporal gauche, c'est-à-dire qu'elle circuite ce qui va devenir le lobe temporal du langage. Et si on ne parle pas à un bébé, eh bien, ce lobe temporal est circuité un peu parce qu'il entend parler autour de lui, mais beaucoup moins bien circuité que lorsque c'est sa mère qui parle. Donc on voit que lorsqu'il y a un accrochage par les yeux, par la voix, par l'odeur de la mère, parce qu'il s'endort très bien aussi, il y a une signature olfactive de la mère, qui est la signature du corps de la mère et pas d'une autre femme ou pas d'un autre homme, et le bébé se familiarise avec cette odeur de la mère, avec la voix, avec les yeux de la mère, avec la manière de le manipuler. Donc c'est la mère à ce stade de son développement, c'est un objet sensoriel, c'est pas encore une maman, ça sera une maman plus tard, quand il la reconnaîtra. Mais il reconnaît le visage de sa mère dès le 2e mois. Et là, c'est pas seulement les basses fréquences de sa voix, ni l'odeur, là, c'est le visage de sa mère qu'il reconnaît, qu'il différencie de tous les autres visages. Et à ce moment-là, si on veut ouvrir le champ de conscience du bébé, il faut qu'il y ait bien sûr la base de sécurité primordiale, c'est-à-dire la mère, puisque quand des hommes et des femmes ont des relations sexuelles, statistiquement, c'est les femmes qui sont enceintes. Donc c'est les femmes qui sont la figure d'attachement primordiale. Mais très tôt, si on veut ouvrir le champ de conscience du bébé, il faut qu'il y ait une autre image d'attachement qui peut être l'amant. Dans notre culture, on dit que le père, c'est celui qui a été l'amant. Mais comme je le disais tout à l'heure, c'est notre culture qui dit ça. Dans d'autres cultures, on dit autre chose. Mais il faut qu'il y ait une autre image que la mère pour que l'enfant apprenne à aimer deux images différentes.
Alors, dans votre livre aussi, moi, ce que j'ai appris, moi qui pensais que chaque être humain, y compris enfant, on avait des capacités de résilience naturelle, en fait, d'autogénération, même en cas d'exposition à un environnement maltraitant. Là, je découvre, en fait, en lisant votre livre, qu'un bébé exposé à un environnement, entre guillemets, maltraitant pendant un temps donné, peut développer, je le dis sous votre contrôle, effectivement, des lésions irréversibles et qui se manifestent à l'adolescence, en fait, qui se manifestent pas forcément pendant l'enfance et la petite enfance, mais plutôt après, à l'adolescence.
Oui, alors les lésions sont irréversibles si on ne fait rien. Mais si on entoure, si on sécurise la mère, ce qui va sécuriser le bébé, les lésions sont réversibles. C'est la définition de la résilience.
À partir de quel moment c'est irréversible? Parce que vous en parlez un moment dans votre livre, j'ai peut-être mal compris.
Si on ne fait rien, c'est irréversible. Et ça
Vous
dure toute
faire
la
quoi
vie.
faire rien? À quel moment on fait rien?
Ben, tout. Si on abandonne le bébé malheureux, si on abandonne la mère, ça fait des lésions irréversibles. Donc, mais si la famille, si le couple, la famille et la culture entourent la femme, la jeune maman et le bébé, on fait quelque chose et c'est réversible. C'est la définition de la résilience. C'est réversible. Mais si on ne fait rien, en effet, ça devient durable et peut-être même irréversible.
D'accord. Et donc, si on entoure, ça veut dire qu'il y a, y a quand même, c'est entouré, c'est quelle est la période, effectivement, où on peut encore, l'environnement, la société peut encore travailler sur, sur un bien-être de la famille, de l'enfant, de la mère.
Alors, il y a plusieurs périodes sensibles. La première période sensible, c'est les 1000 premiers jours, c'est-à-dire entre la conception et l'apparition de la parole. La deuxième période sensible, c'est l'apparition de la parole, où là, le bébé débarque dans le monde des mots, pour faire un schéma, on va dire, la troisième année. Et là, c'est les mots qui sont, c'est le contenu des mots, c'est plus seulement la caresse verbale. Là, c'est le contenu des mots. Si on insulte un bébé, si on dit à un enfant, t'es pas le fils de ton père, ce qu'on disait, on dit très souvent, on les appelait les bâtards, des enfants qui étaient nés hors mariage, on les appelait bâtards, et ce mot a rendu beaucoup de femmes et d'enfants très malheureux, alors qu'aujourd'hui, il ne désigne rien du tout. 60% des enfants aujourd'hui naissent hors mariage et se développent très bien. Mais quand on les appelait bâtards, ils souffraient du mot. C'est-à-dire que le mot bâtard disait, toi, tu n'es pas comme les autres, ta mère a fauté, elle n'a pas respecté la loi, tu n'es pas né dans la culture, et les enfants étaient très malheureux. Mais ce qui les rendait malheureux, c'était ce que désignait le mot. Mais si vous dites à un bébé de 3 jours, tu es un bâtard, il s'en fout éperdument. En revanche, si vous le dites à un enfant de 4 ans, ça peut le blesser durablement. Or, ce mot a disparu de notre culture parce que le mariage n'a plus du tout la même fonction, le sexe n'a plus du tout la même fonction qu'il y a 2 générations. Il y a 2 générations, le sexe avait pour fonction de fabriquer du sacré, mettre au monde une âme pour adorer Dieu, quel que soit Dieu, hein, musulman, chrétien, juif, bachibouzouk, tout ce que vous voulez. Donc, et il avait une autre fonction, mettre au monde un garçon, de préférence à une fille, parce que la violence, les garçons étaient éduqués pour la violence, pour faire la guerre ou pour travailler 15 heures par jour. On valorisait la violence des garçons. On leur apprenait à se battre. Hein, quand j'étais enfant, on nous disait, j'ai connu 2 guerres, on nous disait, vous ne traverserez pas la vie sans connaître la guerre, donc vous devez vous y préparer dès maintenant. Donc les garçons étaient éduqués pour la violence, mais je crois aussi que dans le monde des mammifères, la plupart du temps, les mâles sont plus violents que les femelles. Mais les femelles sont plus violentes qu'on le croit. C'est pas la même, elles sont moins violentes que les mâles, c'est pas la même forme de violence, mais elles sont plus violentes qu'on le croit. Mais en revanche, dans la violence conjugale, dans la violence des guerres, c'est les hommes qui sont plus violents. Sauf que la violence a fabriqué du social. Citez-moi une seule frontière qui n'ait pas été tracée par la violence. Il n'y en a pas. Pratiquement toutes les frontières sont le résultat de guerres. Donc ça veut dire que la violence était une valeur adaptative, une valeur créative, ce qui, par bonheur, en Europe, depuis 2 générations, n'est plus vrai, même si la France est encore en guerre aujourd'hui. Mais c'est une guerre à l'étranger, ça a été la guerre d'Afghanistan, on n'en parle étonnamment plus. C'est la guerre du Mali dont on parle étrangement, et c'est des professionnels, donc on n'en parle pas. Mais quand j'étais gamin, on avait deux guerres à la maison, et la violence est une valeur adaptative. Nos progrès font qu'aujourd'hui, la violence n'est que destruction. Est-ce que ça va durer? Ça va durer si on continue à vivre dans un milieu en paix. Mais si la guerre revient, je travaille souvent en Afrique ou au Proche-Orient, où ces pays sont minés par la guerre, je peux vous assurer que la violence des garçons est valorisée, mais qu'on commence à encourager les filles à être violentes dans ces pays. Est-ce que c'est un bien? Je ne sais pas si c'est un bien, en tout cas, c'est une adaptation.
Alors d'ailleurs, vous dites que la violence et la rudesse de l'environnement masculinisent physiquement les femmes.
Mais oui. Mais oui, lorsqu'une petite fille est élevée dans un contexte violent, elle sécrète plus d'hormones virilisantes. Parce que les femmes sécrètent de la testostérone aussi, mais elles le sécrètent par les glandes surrénales. Elles en sécrètent 20 fois moins que les garçons, mais lorsqu'elles vivent dans un monde où elles sont stressées tous les jours, les hormones du stress dégradent les hormones féminines, de la progestérone et de la folliculine. Donc la testostérone des filles s'exprime plus. Et les petites filles élevées dans la violence sont virilisées. Et quand j'ai travaillé en Roumanie, quand j'ai travaillé en Colombie avec les enfants des rues, ou en Roumanie avec les enfants de les mouroirs de Ceaușescu, on n'arrivait pas à faire la différence entre les petits garçons et les petites filles. D'autant que le développement du corps des petits garçons et des petites filles est le même jusqu'à 10-12 ans, sauf le zizi, où là il y a encore une différence, mais sinon le poids est le même, la morphologie est la même, et la différence. Le dimorphisme sexuel apparaît après la puberté, s'il y a la paix. Alors là, les petites filles deviennent des jolies jeunes femmes et les petits garçons changent de forme du corps. Mais si le contexte est violent, guerre ou carence éducative, eh bien, les filles se masculinisent. Et il y a aussi des contextes où les hormones masculines se dégradent. Et on n'est pas homme ou femme, comme on nous le disait. On est plus ou moins homme, plus ou moins femme. Et ce gradient dépend de la structure du contexte. Si le contexte est en paix, les filles deviennent hyper femelles, et les garçons deviennent hyper mâles. Mais hyper mâles sans violence. Si le contexte est en guerre, les filles se masculinisent. Et les garçons apprennent la violence adaptée au contexte.
Ça va même au-delà du contexte, on va dire, social. C'est aussi le contexte environnemental. Dans la rudesse, plus l'environnement est rude, hein, dur, écologiquement, et plus aussi il y a des métamorphoses hormonales. La femme, vous donnez l'exemple des habitants de la plaine et des habitants de la montagne, où vous dites voilà comment les femmes vont être réglées plus jeunes en habitant dans la plaine, hein, et beaucoup plus tard en habitant dans la montagne, là où c'est beaucoup plus rude.
C'est ça. Alors ça, c'est un travail, un vieux travail qu'on a dépoussiéré maintenant parce que les géographes utilisent le concept de résilience de manière très scientifique et très pertinente. Et ils reprennent l'exemple de Jean-François Dombremès dont je me suis servi. Je commence tous mes livres par une petite fable, une, deux ou trois pages, pour poser le problème, pour raconter une petite histoire qui pose le problème. Et là, je raconte une fable tibétaine qui a été confirmée par les observations scientifiques, hein. Maintenant, il y a plein, plein d'observations. Il y a des milliers d'observations qui confirment ça. Lorsque on vit en plaine, alors Jean-François Dombremès prend l'exemple d'un peuple tibétain qu'il a observé et qui a de nouveau été observé, qui vit dans des plaines. Dans des plaines, il fait doux. Il y a de l'eau, des fruits partout, il n'y a pas de danger. Les enfants dorment n'importe où, ils prennent un fruit, ils boivent de l'eau, pas de compte. Puis la mousson arrive, donc il faut quitter la plaine et monter sur les flancs de l'Himalaya. Et là, eh ben, il faut faire des granges pour stocker les aliments, il faut faire enfermer les animaux la nuit pour qu'ils ne se perdent pas, il faut faire des abris parce qu'il commence à faire froid la nuit. Donc le groupe change de structure. Et une partie de ce même groupe monte au sommet de l'Himalaya. Comme disent les Tibétains, ils montent en haut du haut. Or, tous les animaux ne peuvent pas monter en haut du haut. Les vaches, par exemple, ont besoin de beaucoup d'oxygène. Et si on les fait monter trop haut, elles asphyxient. En revanche, les yaks, les chèvres et les moutons, ils peuvent monter en haut du haut. Mais en haut du haut, il y a des pentes vertigineuses, il y a des sentiers étroits, il n'y a pas beaucoup à manger. Et là, les rituels sociaux deviennent très stricts. Parce que si un animal tombe, c'est très grave. Si un enfant ou un adulte tombe, c'est très grave aussi. Donc là, il y a des rituels stricts, des rendez-vous stricts. Tu surveilles les animaux, tu viens à table à telle heure, tu dois respecter la loi, sinon il va y avoir un drame. Quelqu'un va tomber. et puis il fait froid la nuit. Et même l'imaginaire change. C'est que dans les plaines où il n'y a pas de danger, l'imaginaire est à la fête. Alors c'est, on fait des combats de coqs, puisque ça se fait dans cette culture. Et les gens sont très friands de combats de coqs. Il y a des bals populaires, et puis on dort n'importe où, et puis on fait la fête. Et puis, amis, pente, là, il faut faire attention, c'est le village. Il faut faire des terrasses, il faut faire attention. Et en haut du haut, alors là, on ne fait pas la fête. Et l'imaginaire est très différent. Comme on côtoie le danger tout le temps, eh bien, l'imaginaire est rempli de yétis, d'hommes des neiges. Il est rempli de dangers, un animal inconnu, une panthère qui arrive, la panthère des neiges. Donc l'imaginaire n'est pas du tout le même selon le climat. Donc ça, c'est une observation que j'ai trouvée merveilleuse et qui illustre tout le thème de mon livre.
Oui, vous parlez très bien aussi de l'importance des récits dans l'évolution de l'humanité. Voilà.
Alors ça, c'est la troisième niche sensorielle. C'est celle où la troisième niche écologique, c'est celle où habitent les êtres humains. Mais ils ont la niche utérine, la niche des bras de la mer, la niche affective, comme les animaux. Mais on a cette niche verbale qu'on habite, qui caractérise la condition humaine. Mais avant d'y arriver, aucun bébé ne parle le jour de sa naissance. Donc, on y arrive graduellement. Et on arrive au récit seulement quand on a 6-8 ans, on commence à parler avant, mais on arrive au récit avec l'enchaînement des faits, la temporalisation des faits, seulement vers 6-8 ans. Et là, les enfants entendent deux types de récits. Les récits familiaux, les bavardages familiaux, qui présentent le monde. C'est un monde dangereux, c'est un monde sympathique. Oh ben, la cousine Berthe, elle est méchante, il faut faire attention. Et puis, ensuite, il y a les récits mythiques. Alors là, c'est les mots représentent l'invisible, c'est-à-dire Dieu. Toutes les cultures ont accès à la spiritualité. Toute la religion caractérise chaque culture. Mais les êtres humains ont accès à la spiritualité, quelle que soit la culture. Et là, on parle de l'invisible. C'est les récits qui rendent visible l'invisible. C'est les récits qui mettent en place le Dieu auquel notre groupe croit. Et ça a une fonction pour le groupe, c'est la fonction sécurisante du groupe. On croit au même Dieu, donc on appartient au même peuple, donc je suis bien dans ce milieu. Alors c'est bien, c'est nécessaire, mais quand ces récits sont clos, ils deviennent dangereux, parce que regardez le nombre de guerres qui sont provoquées par les croyances. C'est nécessaire et dangereux. C'est nécessaire parce que ça crée la spiritualité, ça crée la transcendance, ça crée un monde humain, mais si ces récits religieux, alors je dis religieux sacré, mais il y a aussi la religion laïque, et puis il y a aussi la religion scientifique, hein. Et si ces récits sont clos, ça mène à la haine de celui qui ne croit pas au même récit que nous. Et on voit qu'actuellement, ou même depuis longtemps, avant, au début, il y avait des guerres de survie, c'est pas bien, mais on peut comprendre. Alors que maintenant, on voit que la plupart des guerres sont des guerres de croyances, qui sont très cruelles.
Tout à fait. D'ailleurs, est-ce qu'on peut dire qu'aujourd'hui, on est dans le cadre de la pandémie que nous vivons tous ensemble, qui a mis en exergue notre vulnérabilité, mais aussi notre interdépendance? Est-ce qu'on ne pourrait pas dire aussi qu'on est dans peut-être une guerre aussi de croyances?
Alors, on est dans une guerre de civilisation, parce que le virus, sur le plan biologique, c'est rien. C'est 12 gènes enveloppés d'une fine paroi de graisse. C'est tout. 12 gènes sur 28 000. C'est rien, mais quand ça rentre dans le cerveau, ça fait exploser les cellules, les neurones. Quand ça rentre dans les poumons, comme le Covid, ça fait exploser les cellules pulmonaires. Mais biologiquement, c'est rien. Tout le reste est un problème de civilisation. Si on fabrique le virus, c'est parce qu'on fait des élevages intenses, rassemblés, où les excréments des mammifères se mélangent avec les excréments des oiseaux, et ça fait un milieu où un virus est créé. Et si on transporte le virus, c'est parce qu'on est des virtuoses du transport, avec les avions, avec les chemins de fer, avec les bateaux. Donc c'est nous qui fabriquons le virus, à cause de notre consommation, et c'est nous qui transportons le virus. Donc la pandémie, c'est nous qui la fabriquons. S'il n'y avait pas de grands élevages, et s'il n'y avait pas cette consommation qui est nécessaire pour 8 milliards d'êtres humains sur Terre, c'est évident. Et si on n'était pas des virtuoses de la technologie, du transport, il n'y aurait pas d'épidémie. Il y aurait peut-être un virus ou deux provoqués, comme on le voit par exemple chez les primates, chez les singes. Il y a des épidémies virales, mais comme ils sont moins doués que nous pour faire l'élevage des animaux et pour faire les avions, l'épidémie s'arrête au bout de quelques jours ou quelques semaines. J'ai vu des paralysies faciales chez les singes. Ça s'arrête spontanément au bout de quelques semaines, puisqu'il n'y a pas d'avion, il n'y a pas d'élevage. Or, nous, la même fabrication de ce virus, on en fait une pandémie. Donc, c'est un problème. Vous avez raison, c'est une guerre de civilisation.
De laquelle les jeunes sont particulièrement impactés en ce moment, puisque on décrit tous les jours les conséquences, voire même les ravages psychologiques, notamment chez les étudiants ou chez les jeunes qui sont dans des situations très précaires. Quels échos, vous, qui, enfin, vous êtes dans le milieu, on va dire, privilégié pour être en première ligne de ces ravages psychologiques, qu'est-ce que vous...
Alors, d'abord, sur le plan biologique, c'est les hommes âgés qui ont été touchés les premiers. Mais sur le plan psychologique, le confinement, qui est une protection contre la maladie, est une agression contre le psychisme. Et ceux qui souffrent le plus de ça, c'est les adolescents, les jeunes. Et on commence à avoir, parce qu'ils sont à une deuxième période sensible de leur vie. Première période sensible, c'est le bébé, préverbal. Deuxième période sensible, c'est la langue maternelle, l'apprentissage du langage. Troisième période sensible, c'est l'adolescence. Or, là, toute une génération est en train de rater son adolescence. Ils sont confinés. Au lieu d'apprendre à apprendre, au lieu de circuiter leur cerveau en travaillant, en rigolant, en se disputant comme le font tous les jeunes, eh bien, ils sont isolés face à leur écran, ils sont engourdis face à leur écran et ils dépriment beaucoup, beaucoup. 30, c'est énorme, 30 à 40% des adolescents dépriment aujourd'hui, c'est faramineux. À un âge où ils devraient justement se lancer dans la vie, avoir des aventures, rigoler, courtiser les filles, ça fait partie de l'âge, hein, apprendre, et là, ils ne le font pas. Ils sont seuls chez eux, face à un écran où ils apprennent presque rien.
Alors, quand on est parent, des astuces pour faire face à ça et accompagner nos enfants et nos adolescents dans cette situation inédite?
Je pense que ça appartient plus aux parents parce que les adolescents arrivent à l'âge où ils refusent tout ce qui vient des parents. Ça appartient à la société. C'est la société qui doit prendre le relais des familles et qui doit offrir aux adolescents des lieux de parole, d'action, d'apprentissage d'un métier, d'études, ce que ne fait plus notre société à cause du virus. Et les adolescents ratent cette période sensible où on se met sur son orbite sociale. Et ça, c'est très grave, parce qu'il y a plusieurs années d'adolescents qui auront du mal à s'en remettre.
Vous dites qu'on est en train de sacrifier une génération.
Alors, je ne dirais pas une génération, je dirais quelques années. Les enfants qui ont entre 18 et 22 ans aujourd'hui et qui sont obligés de s'isoler à un âge où ils devraient grimper au mur, rencontrer plein de copains et travailler comme des fous.
Eh bien, merci beaucoup, Boris Cyrulnik, pour votre partage, pour tout, pour cette richesse, pour ce livre. Pourquoi avoir choisi d'écrire ce livre maintenant et pourquoi l'avoir appelé « Des âmes et des saisons » Pourquoi ce titre?
À cause de votre question, pour comment ça se fait que l'esprit est sculpté par le milieu? Ça a été votre première question. On croyait que l'esprit, à cause de Descartes, on croyait que l'esprit était d'un côté et le corps de l'autre. Et maintenant, avec les neurosciences, on découvre que l'esprit est sculpté par le milieu, mais qu'on peut agir sur le milieu qui agit sur nous. On a donc un degré de liberté.
Et est-ce que la spiritualité est une nourriture nécessaire à l'esprit?
Je pense, oui, parce qu'on voit que Les jeunes qui n'ont pas accès à la spiritualité vivent dans le temps présent. Ils n'ont pas accès à la transcendance. Et qu'est-ce que c'est le temps présent? C'est la consommation sans sens, c'est-à-dire l'alcool, la drogue, la cigarette. Alors que si on a accès à la spiritualité ou à la transcendance, à ce moment-là, ça métamorphose la manière dont on ressent le monde. On peut accepter de faire un effort pour construire une cathédrale. On peut accepter de faire un effort pour apprendre à faire des études, apprendre un métier. Et si on n'a pas accès à la spiritualité, ben on vit dans la consommation immédiate.
Merci beaucoup, Boris.
Merci, une bonne journée.
C'était super, merci beaucoup.
Merci, j'allais dire à bientôt.
Et oui, mais j'aimerais bien.
Eh bien, merci à tous pour votre écoute et votre fidélité. J'espère que ce contenu vous a été utile. Je vous rappelle le titre du livre de Boris Cyrulnik, « Des âmes et des saisons » aux éditions Odile Jacob. Je vous donne rendez-vous sur blooming.fr où vous trouverez la retranscription écrite de cette interview avec toutes les références. Je vous dis à très vite pour de nouvelles rencontres et découvertes. Et en attendant, je vous souhaite tout le meilleur. À bientôt!